Et donc pour finir, le personnage a également un prix, c'est-à-dire un défaut qui découle en généralement son attirance par la sorcellerie. Donc c'est-à-dire en fait c'est un détail qui permet à d'autres sorciers de se rendre compte que ce type-là c'est un sorcier. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un tatouage, une manière de parler, c'est le joueur qui choisit.
C'est le quickening.
Ouais, c'est ça, ouais. Et ah non, pardon, excusez-moi.
Non, c'est plutôt l'espèce de détection.
Oui, ouais,
fait qu'on se reconnaît dans un entre-soi.
Ouais, excusez-moi, alors j'ai dit une connerie. Donc ça c'est ce qu'ils appellent en anglais le telltale. Oui, donc le chose qui révèle, et il a aussi un prix qui est en fait un défaut pour le coup, c'est genre à cause de c'est le truc classique, genre tu es, je sais pas, tu es vicieux, tu es avare, tu es...
Et c'est pour ça qu'il s'est tourné vers la démonologie.
Non, c'est ce qui est sous-entendu en fait, c'est lié quand même. Et enfin, tu complètes la création de personnage en écrivant ce qu'ils appellent en anglais un kicker, c'est-à-dire en gros ce qui le balance de plein pied dans le premier scénario. C'est une mécanique qui est un peu similaire à celle dont j'avais parlé pour le jeu avec les cauchemars là. Non, je me souviens plus du titre. Enfin bref, c'est de toute façon un truc assez classique maintenant.
Le truc avec les cauchemars.
Oui, tu sais, avec le monde, avec les trucs où il y en a qui étaient en carte à jouer.
Ouais, avec les robots spatiaux, non, enfin,
il y avait plein de trucs, ouais.
Bref, ouais, et puis il y avait le même système, c'est-à-dire que à la création de personnage.
Plus proche de ton micro.
À la création de personnage, tu décides, en accord avec le MJ, de qu'est-ce qui va se passer dans ta première scène de jeu, en fait. Donc ça, c'est sympa. Et le personnage commence avec un démon à son service, parce que, quand même.
Oui.
Voilà. La fiche de personnage est assez laide. Elle est complétée par une fiche de relation qui est d'ailleurs elle aussi assez laide, et sur laquelle je reviendrai un peu plus loin. Alors le chapitre 3, c'est les démons. Il y a 5 types de démons dans le jeu. Il y a les démons imperceptibles, c'est-à-dire les démons qu'on ne peut pas voir. Ça peut vouloir dire que c'est un démon invisible, mais ça peut être aussi un démon qui est une ombre. Ça peut être un petit démon qui est dans ta poche. Ça, c'est des exemples dans le jeu.
Ou alors il est dans ta tête.
Alors ça, c'est autre chose. Après, il y a le démon objet, donc c'est comme son nom l'indique. Le démon parasite qui vit dans ton corps, donc ce serait plutôt celui-là, c'est un démon qui vit dans ton corps auquel
un fœtus auquel
il confère des pouvoirs en fait. Il y a le démon incarné, c'est-à-dire qu'il a l'apparence d'un animal ou d'un être humain. Et enfin le démon possesseur qui possède un être humain qui perd alors le contrôle sur son propre corps. Donc en gros, t'as un degré entre le parasite où il y a une espèce de symbiose et le possesseur où là il y a plus de symbiose quoi. Les démons ont eux aussi des scores en volonté, en force, volonté et lore. Ils ont également un tel-tel, comme les sorciers. Et ce qui est en plus, c'est un score de pouvoir qui couvre en fait toutes leurs capacités démoniaques. Donc il y a une liste de capacités qui est fournie dans le bouquin qui couvre plus ou moins toutes les possibilités de pouvoir, que ce soit physique, mentaux, etc. C'est assez bien foutu pour le coup. La liste n'est pas trop longue et assez, assez détaillée pour pouvoir s'en servir de manière utile.
Oui, ça permet de faire des démons qui sont vachement variés.
Tout à fait. Ça permet. Il y a pas mal d'exemples de démons dans le jeu pour où tu vois que tu peux faire des trucs vraiment assez variés.
Vraiment cool.
Alors, un démon a deux choses en plus. Il a forcément un désir, c'est-à-dire ce qu'il souhaite faire, et un besoin, c'est-à-dire ce qu'il doit faire. S'il ne peut
pour
pas
survivre.
Tout à fait. S'il ne peut pas laisser libre cours à son désir, il peut devenir frustré et finir par se rebeller. Donc le sorcier a intérêt à faire en sorte qu'il puisse assouvir ses désirs. S'il n'a pas accès à la chose dont il a besoin, il va souffrir et devenir moins puissant. Et évidemment, désir comme besoin, c'est souvent des choses horribles ou très dérangeantes qui sont vouées avant tout à mettre le personnage joueur qui a invoqué ce démon dans la merde, pour que ce soit plus rigolo. D'ailleurs, le désir, ça peut très bien être mettre mon sorcier dans la merde.
Oui, bien sûr.
C'est simple et efficace. Et il faut noter que Ron Edwards insiste de nombreuses fois sur le fait que le terme démon, c'est en fait une espèce de moule dans lequel les joueurs et le MJ mettent ce qu'ils veulent. Ça peut être le démon cornu basique, ça peut être des esprits d'humains décédés, ça peut être des cadeaux d'énergie qui seraient intelligents, ça peut être des extraterrestres, ça peut être ce que vous voulez. C'est vraiment au groupe autour de la table de se décider qu'est-ce qu'ils mettent derrière ce terme-là. Quoi qu'il arrive, en tout cas, les démons s'efforcent de rester discrets et de ne pas se montrer aux yeux des non-initiés. Je n'ai pas dit mascarade. Le chapitre 4,
c'est pour éviter aussi que ça fasse trop grand guignol, ouais, et qu'il y ait des gros démons qui crachent des flammes
d'autant
dans la rue.
D'autant plus qu'il dit aussi que tu fais un peu ce que tu veux, mais qu'on part du principe que les sorciers, il n'y en a pas plus d'une centaine sur Terre. Ouais. Donc c'est quand même assez, assez low-key comme approche, quoi. Donc le quatrième chapitre, c'est les conseils de jeu. Je vous épargnais le détail, mais en gros, c'est dans ce chapitre-là qu'il revient une nouvelle fois sur le principe de customisation, qui est vraiment au cœur du jeu. Donc décider ce qu'est un démon, décider qu'est-ce qu'on entend exactement par le terme humanité, décider qui sont les sorciers, comment ils se réunissent, etc. Et quel ton donner au jeu aussi.
C'est une sorte de création partagée dans l'idée telle que c'est approché, ou c'est vraiment le MJ qui définit
Alors justement, c'est un peu flou. C'est un peu flou, c'est-à-dire qu'il semble dire que c'est une création partagée. En même temps, dans les exemples qu'il donne, j'y reviendrai parce que c'est dans le dernier chapitre, où il donne les exemples de comment lui il a fait, bah, il dit voilà comment j'ai présenté la chose aux joueurs. Et c'est pas voilà comment moi et mes joueurs on a décidé, quoi. Donc,
ouais.
Tu vois, c'est... Mais bon, ça tient aussi peut-être de l'époque où la création partagée était un petit peu moins à la mode, on va dire. D'ailleurs, les...
Oui, après,
voilà,
ça peut être juste un problème de rédaction.
Bah, c'est-à-dire que les conseils de jeu, de toute façon, en général, sont assez standards aujourd'hui, ouais. Même en termes de construction de scénario.
Oui.
Après, c'est vraiment avec la vision qu'on a aujourd'hui. En 96, ça devait faire du bien de lire un jeu de rôle où l'auteur disait il ne faut pas trop structurer un scénario, il faut le découper avec des scènes, il faut le centrer autour des personnages, etc.
Est-ce que le fait que le background n'est pas tellement défini, c'est aussi prévu peut-être pour utiliser le jeu comme supplément démon pour un autre jeu, ou est-ce qu'on pourrait envisager cette utilisation?
Oui, on pourrait l'envisager. On pourrait l'envisager, je ne suis pas sûr que ce soit le but initial par contre. Hein. À mon avis, ça marche mieux quand même en jeu standalone. Enfin, ce serait un peu trop se prendre la tête de l'adapter à un autre jeu, je pense. En plus, vu la généricité, j'ai envie de dire, du truc. Tout à fait.
Ouais, t'es docteur, tu peux te permettre.
Ouais, donc dans le chapitre 4.
Il peut se permettre les néologismes les plus douteux.
Donc voilà, il insiste sur le fait de mettre les personnages en avant grâce aux kickers qu'ils auront définis. Il insiste sur le fait de structurer un scénario en scène avec des révélations et ce qu'il appelle des bangs, qui à l'époque était un terme complètement inconnu, qui aujourd'hui a été repris notamment par Smallville. D'ailleurs, la grille de relations dont je parlais au début, c'est-à-dire que les personnages vont inscrire leurs contacts, leurs machins, leurs alliés sur une grille selon s'ils sont importants pour eux.
C'est très Smallville, ouais.
C'est vraiment l'ancêtre de la fameuse relation map, quoi. Ouais. Alors le quatrième chapitre se conclut avec un scénario qui est vraiment pas terrible. Ce qui est un peu normal en un sens, puisque pour le coup il peut pas être construit autour des personnages, donc c'est vraiment une trame tout ce qu'il y a de plus classique, et c'est l'équivalent du scénario Maison Hantée pour Cthulhu, quoi. C'est vraiment le truc tout ce qu'il y a de plus de base, qui montre pas du tout, je pense, la spécificité du jeu.
Sauf que la maison Corbett, ça marche.
Bah, le problème en fait là, c'est que c'est un scénario vraiment qui est méga classique.
Et qui exploite pas le
truc, mais en même temps, quand t'es sur un jeu bac à sable, etc., c'est pas évident. En fait, franchement, je pense que inclure ce scénario n'était pas utile.
Mais est-ce qu'ils auraient pas mieux fait, par contre, d'inclure un exemple de partie, tu vois?
Tout à fait. C'est ce que j'allais dire, c'est que je pense et d'ailleurs, je crois qu'il dit plus ou moins que ce scénario est tiré de lui ses propres parties, mais du coup, il y a un côté vachement artificiel. Genre, au lieu de dire on a fait une partie, ça s'est passé comme ça, c'est plutôt voilà comment vous pouvez recréer la partie que j'ai fait avec mes potes, ce qui est un peu bon. En tout cas voilà. Donc ensuite le chapitre 5, c'est les règles de sorcellerie. Donc il y a toute la mécanique pour invoquer un démon et le contrôler. Alors il y a 6 rituels de sorcellerie qui sont liés au démon. Il y a le contact, donc on passe un coup de fil au démon. Il y a l'invocation, donc le démon se pointe. Il y a le lien, donc le démon passe à notre service, pas forcément de son plein gré. Après il y a la maîtrise, donc on limite le mouvement du démon à un endroit, une personne ou un objet, donc on lui met une laisse, hein, en gros. Après, il y a la punition. Le démon n'a pas fait caca dans sa caisse, du coup, on lui tape sur le museau. Et enfin, il y a le bannissement. Il y en a vraiment marre de ce démon qui fait caca partout. Du coup, on va l'abandonner au bord de l'autoroute. Donc, à chaque fois, ça se passe par un jet de dés en opposition entre le démon et le sorcier. Il y a plein de jets, des modificateurs, des variantes. On peut faire la sorcellerie en groupe, par exemple. Bon, ouais. Voilà, je vous passe les détails. Et c'est aussi dans ce chapitre-là qu'on dit ce qui se passe si un démon n'est pas satisfait au niveau de ses besoins et de ses désirs, comment il peut se rebeller, comment techniquement, ou plutôt mécaniquement, il va briser l'emprise du sorcier, etc.
Ça n'a pas l'air très funky, dit comme ça. Hein.
Non, et justement, ça fait partie des choses... j'y reviendrai après dans la partie j'aime pas, mais ouais...
Les histoires de sorcières finissent toujours mal ou...
En général.
En général.
pour à la fois le démon
l'idée,
et le...
Oui, le concept, quand même, c'est ça. Hein, c'est que être sorcier, ça te permet d'être super puissant, mais en même temps, bon, c'est vachement risqué, et au bout d'un moment, les sorciers vivent pas vieux, en général, quoi.
Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Breaking Bad, parce que c'est... Non, mais En fait, finalement, le type fait appel à un pouvoir, le pouvoir du crime, pour échapper.
Enfin, lui, c'est le pouvoir de la chimie.
Ou de la chimie. Et du coup, au début, il n'est pas un criminel, clairement. Et puis, petit à petit, il devient un criminel.
Et sur Sorcerer, tout à fait. Ça pousse au début.
Ils ne sont pas forcément des sales types, mais les contraintes du démon et de leur propre vice les entraînent finalement à.
Super campagne pour Sorcerer, ça.
C'est exactement ça.
Breaking Mage, tu vois, un truc.
Breaking Mage.
Alors, il a le titre, c'est marrant, c'est magique.
Alors, je finis juste sur la présentation du jeu, donc ensuite.
Mais en fait, moi qui avais lu le jeu et qui l'ai critiqué à l'époque, moi j'ai trouvé ça vachement bien d'avoir un sorcier et l'éventail des trucs qu'il sait faire, dont l'établissement du lien qui est quand même vachement rigolo.
Si tu veux, c'est vrai que
ça peut parfaitement être le démon qui tient la laisse.
Ouais, tout à fait.
Mais voilà, qui est à l'extrémité de qui?
le démon est vraiment un personnage en tant que tel, avec sa fiche, etc. C'est vraiment une relation.
C'est aussi une façon de simuler la relation conjugale, les couples.
Ou la relation entre joueurs et MJ, tu vois. Oui,
parce que qui joue le démon? C'est le MJ?
C'est le MJ, ouais. Je crois qu'il suggère en passant que ça peut être un autre joueur, mais bon.
Je pense que dans cette répartition des rôles, ça peut faire penser à des jeux comme Bloodlust où tu pouvais séparer l'arme et le joueur. Il y avait Race aussi où tu pouvais jouer l'ombre et le personnage, le fantôme. Il y a différents trucs comme ça où c'est intéressant.
Vu à quel point le jeu est customisable, je pense que c'est complètement envisageable.
C'est, à mon avis, c'est plus souhaitable d'ailleurs. Parce que soit le MJ qui gère tout ça, c'est un peu dommage.
Non, au contraire. En fait,
tu mets l'ambiance à la table si c'est joué par un autre joueur. Tu joues ton démon.
Ouais, c'est vrai que c'est.
Je pense que les deux ont leurs avantages et leurs.
Mais en fait, parce que je l'ai maîtrisé, j'ai fait un one shot qui était génial d'ailleurs. Je partais du principe que les personnages, eux, ne savaient pas du tout comment étaient constitués les démons, de quoi ils étaient faits. Et donc c'était d'autant plus dangereux d'avoir un PNJ à qui il pouvait donner des ordres, mais il savait bien que c'est le MJ étant là, vu que c'est lui qui donne les ordres aux démons, ça va pas forcément se passer exactement comme il voudrait. Et il est très intéressant pour un démon de laisser traîner la situation parce que ça les amuse, parce qu'ils découvrent le monde, parce que même ils peuvent s'attacher au perso et continuer de lui obéir simplement parce qu'ils le trouvent sympa.
Ouais, tout à fait. Ouais, y a un côté comme ça aussi. Alors le livre donc a un dernier chapitre qui en fait donne des exemples de customisation du jeu. Là encore une fois, Ron Edwards dit, comme je disais tout à l'heure, voilà comment moi je l'ai présenté aux joueurs. Et c'est vraiment un truc assez classique, c'est-à-dire un truc contemporain autour du concept de transgression. Donc qu'est-ce qui se passe quand les règles que l'on se fixe sont brisées? C'est la phrase qu'il emploie. Donc il présente, je vous le fais vite fait, mais en gros il présente les groupes de sorciers de cet univers. Donc pour lui, il y a les classicistes, donc c'est des vieux sorciers bien traditionnels, qui se divisent entre les immortalistes, donc je vous laisse deviner ce qu'ils étudient, et les extasistes, ça fait beaucoup de istes, qui eux s'intéressent à la passion, les sensations fortes, la magie de manipulation, tout ça.
Et les narrativistes.
Et en phase 2, il y a les sorciers radicaux, donc ils sont plus individuels, ils sont moins en groupe, dans lesquels il y a les Sanzoku, qui sont des types avec des armes démoniaques, donc là c'est vraiment Bloodlust, quoi. Et les Psyche Junkies, pour qui la sorcellerie passe par la prise de drogue. Donc ça fait un background qui est plus ou moins clé en main, qui n'est pas méga original, mais bon, qui fonctionne, on va dire. Et puis dans ce chapitre là il présente aussi des petites variantes ou des modifications possibles, par exemple l'utilisation de nécromancie, le rôle important ou non des sorciers dans l'histoire humaine, et surtout le but de la sorcellerie au niveau cosmique. Cosmique, qui, ça peut se résumer en gros à la question s'il y a des démons, est-ce qu'il y a des anges. Là j'avoue, je suis moins fan du concept. Donc voilà, tout ça, ça insiste sur l'aspect customisable du jeu, et l'ouvrage se termine par le fameux essai System Does Matter.
Évidemment.
Je ne sais pas s'il était inclus dans l'édition de 2001, mais en tout cas,
il
là,
me semble que oui.
Je ne sais plus en quelle année
il était écrit. Il me semble bien. Alors, mais si, il y avait des annexes.
Ouais, donc c'était sans doute.
Je dois voir l'édition originale, il faudra que je regarde.
Alors, mon avis sur tout ça, ça peut se résumer en une phrase. Si on était en 96, je dirais que Sorcerer, c'est génial, c'est une révolution incroyable, j'ai jamais vu ça en jeu de rôle. Si on était en 2001, je dirais c'est un nouveau courant de jeu de rôle, ça va sans doute faire bouger les choses, c'est très intéressant. Bah, en 2011 et a fortiori en 2014, je suis un peu plus réservé. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui me parle, hein, parce que moi les JDR indie, j'aime beaucoup ça. Mais ça reste en fait... assez lourdeau en un sens, c'est-à-dire que les règles sentent bien les années 90 quand même. J'ai pas parlé du combat, mais le combat en fait vient complexifier des règles simples en utilisant tout un système de modificateurs, de trucs super compliqués. Et pourquoi
ouais, ça, moi, j'ai trouvé ça imbitable.
Là, c'est ça quoi.
Quand j'ai maîtrisé, j'ai pas utilisé ces règles-là.
Et en plus, pourquoi insister toutes les 5 pages sur le fait que c'est les personnages et leurs dilemmes d'intérieur, leurs émotions qui prônent, si c'est pour ensuite mettre le combat en deuxième place d'importance quoi. Enfin,
c'est en train de nous dire en fait que c'est une grosse pierre bien brute à l'intérieur de laquelle il y a une pépite, mais voilà.
Ouais, voilà. Ben, en fait,
maintenant qu'on a des pépites directement, alors, est-ce qu'on a vraiment envie de se faire tuer?
En plus de ça, j'ai pas non plus. Alors, il y a le ton de l'ouvrage qui est très aride, hein, il faut bien le dire. Et j'ai pas parlé du fait que c'était une édition annotée. L'édition annotée, ça veut dire qu'en fait, vous avez sur les pages de gauche le texte d'origine et sur les pages de droite le commentaire de Ron Edwards.
De l'auteur qui se regarde écrire.
10 ans plus tard. Et franchement, c'est vraiment une fausse bonne idée. Pourquoi ? Parce que.
Autant réécrire tout le bouquin.
Parce que voilà, c'est ça. Au début, en fait, quand David m'a filé le bouquin, je me suis dit, ah putain, c'est super. Un espèce de commentaire du réalisateur, mais en version papier, c'est vraiment une bonne idée. Et en fait non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que souvent, il va te dire genre. Ah ouais, alors tel exemple de jeu, c'était pas un bon exemple, j'aurais plutôt dû donner ça. Telle règle, ah ouais, ça marche plutôt bien, je suis plutôt content de moi. là-dessus, ah non, franchement, à l'époque, je pense que si je devais le réécrire aujourd'hui, je devrais écrire comme ça.
Et t'as dire,
mais réécris-le, ouais, c'est simple. Parce que du coup, c'est con, parce qu'en fait, à chaque fois, tu vas lire la règle. Alors je pense qu'il y a un côté, genre, je respecte le texte d'origine et tout. Mais du coup, ouais. Tu lis le texte d'origine, tu te dis, ah oui, c'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée, peu importe. Et après, tu lis le commentaire, tu dis. Ah ouais, donc en fait, c'est plutôt comme ça que je dois faire. Donc ça te met la tête en vrac.
Mais pourquoi il fait pas une seconde édition ?
Bah, c'est ça, je comprends pas quoi. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment la fausse bonne idée. Donc ce que je regrette le plus, je pense, au final, c'est comme tu disais, que Sorcerer, ça reste un jeu de rôle bac à sable avec finalement relativement peu de contenu quand tu regardes. Ouais. Et c'est con parce que, je veux dire, c'est 256 pages, j'aurais eu moyen de caser plus. Mais, ou de faire un truc plus court.
Alors,
cela dit,
oui.
Alors juste pour finir,
je rajouterai des trucs après.
David m'avait aussi mis entre les pattes une compilation des 3 gros suppléments de Sorcerer. Que j'ai pas eu le temps de finir, mais je vais quand même les présenter rapidement parce que je pense que ça remédie peut-être un petit peu à ce défaut. Donc il y a, alors déjà le bouquin s'appelle Sword, Soul and Sex, qui est un bouquin donc pas du tout embarrassant à lire dans le métro, et qui présente 3 suppléments. Le premier s'appelle Sorcerers and Sword, qui propose de jouer à Sorcerer dans une variante donc Sword and Sorcery, donc du Elric ou du Conan, avec ce que ça peut avoir de sombre ou de brutal.
Conan, ça fait bizarre.
C'est l'exemple qu'il prend.
Non, j'aurais dit plus. Ouais.
Le deuxième supplément s'appelle The Sorcerer's Soul, qui parle en gros, ça tourne autour du concept d'humanité, donc ce qui désigne, comment on peut le customiser, etc. Ça développe aussi le concept des démons parasites et possesseurs de manière un peu plus développée, genre comment un démon peut en fait, au bout d'un moment, vouloir devenir humain ou oublier qu'il est un démon en fait. Un démon qui a une apparence humaine, au bout d'un moment, il se souvient plus que c'est un démon. Donc tu pourrais jouer un mec en fait qui est un démon sans le savoir. Il remet les anges sur le tapis dans ce supplément et il parle de relation map pour écrire son scénario. Donc là j'y peux rien, c'est lui qui le dit. Hein. Et donc le troisième supplément s'appelle Sex and Sorcery, c'est celui-là que j'ai pas du tout lu, mais a priori il s'intéresse pourtant à des thèmes qui je pense sont intéressants et peu traités en jeu de rôle, c'est-à-dire les concepts de masculinité et de féminité, comment ils peuvent interagir, comment des thèmes de jeu de rôle peuvent en être inspirés. David me souffle dans l'oreille que la compile de supplément plus le bouquin de base coûte $40 port compris.
Coûtait, pardon. Parce que maintenant que le Kickstarter est terminé, je sais pas trop où on peut récupérer les bouquins.
D'accord.
Je sais pas s'il reste.
Si, je suis allé voir sur le site de Adept Press, donc la maison d'édition de Ron Edwards, tu peux les commander. Je suis pas allé voir combien de sous ça coûte. Ouais. Donc voilà. Tu voulais rajouter...
Oui, quand j'ai découvert le jeu, j'ai eu un vrai coup de cœur, mais en fait, c'était un coup de cœur pour le pitch du jeu. le fait de jouer des personnages complètement normaux, mais qui ont cette capacité de se lier des démons, lesquels eux peuvent faire des choses extraordinaires, et de jouer sur toute la gamme des types de scénarios que tu peux faire avec ça. Moi, évidemment, j'ai tendance à jouer plutôt façon INS. Ouais. Et donc j'avais fait des démons plutôt marrants, ou des trucs qui détruisent beaucoup de décors. C'était un truc beaucoup moins sérieux que ce pourquoi c'était normalement
qu'on peut
fait.
Faire avec de toute façon.
Mais qu'on peut faire avec, et puis voilà quoi, c'était vraiment très très drôle. Et
moi c'est vrai que enfin voilà, le reproche principal que je lui ferais, c'est juste que c'est dommage que ce soit sous ce format et ce prix-là. C'est-à-dire que ça aurait été un jeu de rôle comme on en trouve maintenant, je sais pas, un livret de 56 pages. Bah là, je me serais dit, ah ouais, c'est intéressant. Là, passer 250 pages pour te dire au final, voilà des règles très simples. Vous pouvez jouer des sorciers avec leurs démons, mais c'est vous qui faites ce que vous voulez. C'est à vous de customiser le truc. Bon.
Ouais, c'est vrai.
Dit comme ça, c'est pas vendeur. C'est
bah sûr. Surtout qu'en plus le ton est quand même, enfin voilà, c'est un peu sec hein, comme ton. Alors que, comme tu le disais, il y a moyen quand même quand tu parles de démons et de sorciers de faire des trucs pas forcément super rigolos, mais en tout cas un petit peu plus.
Non, puis même dans le bouquin, il y avait des exemples qui étaient plutôt cool de début de scénario in media res où tu rentres chez toi, tu vas dans ta salle de bain et il y a un corps éviscéré qui pend dans ta douche. Et voilà, l'aventure commence comme ça, et j'aimais bien ce côté un peu...
Sympa aussi de refaire la série Death Note avec ce jeu, non ?
Tu peux la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas ?
Ah, c'est un étudiant japonais qui trouve un livre qui permet de tuer les gens. Ça fait venir un démon qui l'accompagne, et en gros bah on accède à des pouvoirs qui sont démesurés, et du coup bah il devient complètement corrompu quoi.
Ouais,
c'est ça, ça pousse le personnage à faire de plus en plus n'importe quoi. Et là moi c'est vrai que je l'ai joué dans une optique plutôt drôle, mais dans une optique dramatique, ça a évidemment probablement beaucoup plus d'intérêt.
Un intérêt différent, je dirais, moi.
Ça dépend de tes joueurs, ça dépend de ce que recherche le MJ. En tout cas, c'est vrai que je dois avoir l'édition originale de Sorcera, et en fait, le bouquin m'était tombé des mains, en fait. Dans mon souvenir.
Ouais.
Donc, j'ai jamais lu en entier. Ça m'a saoulé. Voilà. Heureusement que c'est pas moi qui fais la critique.
Ouais, bon,
toi, t'es un courageux.
Bah, on va encore me reprocher de faire que des critiques de jeux que j'aime pas, mais déjà, un, c'est David qui m'a forcé. Non, puis ça m'intéressait parce que c'est quand même le jeu qui a donné. Enfin, je veux dire, c'est vrai que quand tu lis ce jeu, maintenant en 2014, tu vois à quel point il a inspiré plein de concepts que tu retrouves dans. Peut-être pas la totalité, mais une grande majorité de jeux indépendants, etc. Le truc, c'est que bah en fait, les concepts, tu les retrouves en mieux expliqués et mieux exploités. Donc, en tant que document historique, c'est intéressant, on va dire.
Mais c'est toujours le même problème, en fait. Les gens qui ont des super bonnes idées, ils savent pas forcément bien les écrire, donc après, il faut des gens qui vont affiner un peu ce qu'ils font.
Et d'ailleurs, c'est le seul jeu de rôle qu'il a écrit, je crois.
Je pense que t'as raison.
Je crois pas qu'il ait écrit grand chose d'autre.
C'est vrai. Peut-être plus des articles en fait.
Ouais,
que
je regardais sa fiche Wikipédia avant de venir, et je crois qu'il n'a rien écrit, écrit d'autre.
Il a juste écrit sa fiche Wikipédia. Mais non, mais c'est vrai que c'est toujours le problème. Quoi, c'est toujours le problème? Non, c'est pas toujours le problème. Il y a des gens qui ont des idées et qui savent bien les écrire, mais c'est pas systématique malheureusement. Et du coup, bah, tu peux avoir des super bonnes idées, et puis au final, c'est chiant quoi. Voilà.
Ah si, il a écrit un truc qui s'appelle Spion. Ah, mais c'est récent ça, non? Je sais pas.
J'ai jamais entendu parler.
Enfin voilà. Donc pas grand chose donc.
D'accord.
Voilà.
Bon. Eh bien, je propose qu'on passe tout de suite à la mini critique sur Nanochrome.
D'accord, ok.
Tu n'auras pas le temps de manger ta pizza.
Merci.
Mais
merci,
va refroidir, ça va, c'est bien.
Alors, ça va être rapide. Yannick vous a parlé de Dragon de Poche à la dernière émission.
Oui.
Je n'étais pas là.
Ouais.
J'ai entendu ça et
entre-temps,
forcément.
Nous avons des brontosaures qui mâchent à côté.
Voilà, et entre-temps, LG, le Grumpf, a sorti un autre bouquin sur le même principe, un bouquin de poche, mais là sur le thème du cyberpunk.
toujours basé sur l'OGL, c'est-à-dire le D20, mais en version remaniée sérieusement, à tel point que quelque part on peut se dire que c'est plutôt du Dungeon World que du D20, parce que voilà, la création de perso, vous la faites en deux pages, avec des caracs à répartir, trois compétences, une capacité, des points de vie, des points de connexion, des points d'héroïsme, et puis roule ma poule, on y va. S'il faut choisir une affiliation, donc corporatiste, ganger, indépendant, slash C. Bref, c'est en fait dans ce bouquin qui coûte 10€ chez Lulu en version papier avec 6€ de frais de port ou 5€ de frais de port ou 5€ en PDF.
Oui.
Vous avez la quintessence du cyberpunk. Comme le Dragon Punch, donc vous avez des règles de création de perso, des règles de résolution. Mais surtout après, vous avez des quantités de tables qui vont vous permettre de bâtir une campagne, de bâtir des scénarios. Donc dedans, évidemment, on vous explique le système de la matrice. Comme tout le monde a la possibilité d'être connecté, tout le monde a accès à la matrice. Donc ça évite que ce netrunner ou ce decker joue à un jeu dans le jeu pendant que les autres se font chier,
oui.
Qui lui en veulent parce que lui, il a qu'un moment pour briller, c'est quand il va dans la matrice et il fait chier tout le monde.
Là,
non.
Ça, hein.
Voilà, là, c'est pas le cas. Et donc, dans ce bouquin qui fait combien, qui fait 110 pages en petit format, vous avez tout. Donc, ça vous permet d'établir, quand vous créez votre perso, vos relations. Et une fois que vous êtes débarrassé de tout ce qui est mécanique de jeu, avec vous avez tout ce qu'il faut. Donc il vous explique en fait dedans les grandes voies, les grandes directions du cyberpunk, ce qu'on peut en faire, les grandes technologies qui font avec, et à partir de là, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bâtir votre cité, vous allez bâtir l'autre, quoi, les organisations qui vont être dedans. Et après, quand on vous arrive vraiment en scénario, les villes, les lieux, les marques, il y a des tableaux à chaque fois, donc vous pouvez créer de toutes pièces ou juste tirer dans les tableaux.
Quand tu dis vous, c'est le MJ ou c'est le groupe ?
Là, en l'occurrence, ça peut être le MJ, ça peut être le groupe. Quand tu fais la création, quand tu vas lancer une campagne, déjà, tu vois, si tu veux faire une campagne de corpo, une campagne de classiques, samouraïs des rues, machin, qui sont des gun for hire, ça marche. On détermine ça et à partir de là, bah, c'est un peu au choix. On peut faire une création partagée de la ville avec les grandes. D'ailleurs, c'est ce qu'ils conseillent, hein, c'est plus l'optique, même si ça peut être le MJ qui le fait en utilisant juste les tables. Tu vas établir les grandes organisations qui vont interagir, comment est la ville, quelles sont les marques, et après, est-ce que tu veux jouer. Il y a tout un chapitre sur justement donc la création de campagne. Donc, est-ce que tu veux jouer sur le pouce ou est-ce que tu veux jouer en campagne? Donc voilà, il y a trois grandes directions de campagne. Le tech merc, donc des gars qui sont qui n'ont pas de thunes et qui sont engagés par non pas un monsieur Johnson mais un monsieur Lemiché. Et voilà. Il y a le jeu corporate où là vous êtes des corpos, vous accomplissez vos missions, donc là vous avez beaucoup plus de moyens. Ou le panopticon, comme il appelle ça. Où là vous jouez des sortes de journalistes clandestins rebelles qui vont accomplir toutes sortes de missions. Le but du jeu, c'est de pouvoir publier, faire visiter tes missions, et puis en fonction de ce qu'on t'es crédible ou t'es pas crédible, et puis au fur et à mesure. Donc,
ça m'intéresse vraiment.
Voilà. Donc c'est très très bien fichu. Donc du coup voilà, donc t'as ces tables. Donc quand tu choisis ton axe de campagne, à partir de là tu choisis qui va être l'autre, donc l'ennemi on va dire. Toujours en t'appuyant sur les tables, donc sur les trois axes tech merc, corporate et panopticon, et derrière bah voilà, t'as un truc pour créer des aventures avec, tu lances des dés et t'as un scénar clé en main sur
tout.
C'est vraiment voilà comment l'histoire commence, tu vois, pour la mission, les lieux, l'adversaire, les complications, les étapes de l'aventure.
Ah, t'as la vraiment... structure de scénario.
Ah
à
ouais, complètement. Tu vois, dans créer du jeu en plus, t'as des tables pour les galères qui peuvent arriver. Donc là, c'est pas les complications, c'est les galères. Les renvois d'ascenseur, les petits boulots, le truc pour monter des plans. Après, ils donnent des exemples pour peupler donc les villes. Donc t'as des caracs de base en fait pour les différents types de catégories de personnes que t'auras en face de toi. Et puis après avec des caracs toutes prêtes, t'as un gros catalogue de cybernétique, évidemment un gros catalogue d'armement, hein, toujours avec des tables, tout passe par des tables, des véhicules, des drogues. C'est quoi en fait, je suis à la base un gros fan de cyberpunk avant de tomber dans plein d'autres jeux. Quand même cyberpunk 2013 et 2020 m'ont occupé quand même pas mal de temps. Franchement, je tire mon chapeau parce que c'est super bien fait. Les règles sont très simples, donc la prise en main est super rapide, sans prise de gueule. Je dis, comme on prendra en main Dungeon World, tu prends en main ça, sauf que la différence c'est que t'as un tout petit bouquin qui tient dans ta poche. Et soit tu fais la création partagée sans t'appuyer sur les tables parce que tes joueurs sont avec la mécanique de base, on peut le faire, mais sinon si tu dis ouais non faut, je suis pas super inspiré, les joueurs sont pas super inspirés, tu pioches dedans, tu lances des 2-3 dés et ton scénar il est fait quoi. Donc vraiment j'ai, alors c'est pas une critique en bonne et due forme que je vous fais là, mais je l'ai reçu cette semaine, je l'ai lu une première fois, je suis vraiment bluffé. Je vais le relire, je pense, quelques fois, et puis je vais probablement rapidement lancer une partie pour voir, et puis on verra ce que ça donne.
Et après, tu serais susceptible de garder ce bouquin comme moteur de cyberpunk ?
Ah, carrément. Si vous jouez à Leverage, ça vous fait un moteur pour du Leverage dans un autre genre. Quand vous faites, vous pouvez faire vraiment, c'est vraiment un super moteur. J'ai pas encore lu Dragon Push que j'ai commandé en même temps. Donc, Yannick en disait le plus grand bien. Je vais voir un peu ce que ça donne parce que ça m'intéresse. Mais je trouve ça super, ouais.
Alors, c'est génial parce que je suis en train de feuilleter. À la fin du bouquin, t'as un truc, c'est les accélérateurs, donc des nanodrops de combat. Et elles ont toutes des noms de chansons de Lou Reed ou du Velvet Underground, en fait. Donc, c'est un bel hommage.
Non, mais je pense qu'il s'est vraiment fait plaisir. Et en se faisant plaisir, il nous fait plaisir parce qu'il y a vraiment, t'as vraiment tout ce qu'il faut.
C'est impressionnant. Enfin, moi, j'apprécie de plus en plus ce genre de petit format. Parce que, comme tu dis, tu le mets dans ta poche et t'as tout ce qu'il faut, quoi.
Bah, moi, j'ai pas pour Nanochrome, mais pour Dragon Push. J'ai une amie qui est ludothécaire et elle est plongée, elle a sauté sur Dragon Push et elle fait jouer des gamins en ludothèque et c'est plus que carton plein, quoi. Et les gamins sont juste accros et ils en redemandent. Donc, je pense que, quoi, pour moi, le format de poche, en dehors du fait que c'est pas beaucoup de choses à transporter dans ton sac pour aller à ta partie, les règles étant tellement simples, au final, c'est accessible à tous. Et si on fait des suppléments comme ça de poche sur les différents thèmes, je pense que ça permet de tirer la quintessence, comme on a quand même vachement de recul sur tout ce qui s'est fait depuis quantité d'années, et ben on a la possibilité de pouvoir sortir des trucs aussi petits avec autant d'informations, autant de trucs. Et je pense que c'est, pour moi, c'est la conséquence logique d'un all trait qu'il a fait. C'est tout à fait dans la droite ligne, mais pour moi
c'est en plus concentré encore.
C'est en plus concentré mais encore affiné, donc je pense que c'est vraiment il l'a passé dans le tamis et c'est vraiment ce qui reste, c'est ça quoi, c'est les petites pépites qui vont nous permettre de pouvoir winner grave. J'en pense que du bien. Mais d'accord, ce n'est pas une critique construite, désolé.
C'est une critique de poche, en fait. Finalement.
Oui, de moins d'une demi-heure, dis donc.
On peut pas tout faire tout le
temps.
C'est
proportionnel, en fait. Quand il a un jeu en pleine couleur, 484 pages, il y passe 40 minutes. Et...
5 euros le PDF, ou 10 euros plus 5 euros de port par Lulu. Franchement, et puis après, vous pouvez aller télécharger les fiches de perso et des aides directement sur le site de LG.
Ne crie pas dans ton micro, Michael.
Oh, excusez-moi.
C'est vraiment trop cher.
J'insiste pour dire que c'est trop bien.
Je vais emprunter, je vais le photocopier.
Voilà. C'est un jeu qui est plus cher à photocopier qu'à.
Je pense, oui. Je pense que t'as raison. Voilà.
Comme toi, tu voulais nous parler d'un Kickstarter récent.
Tout à fait. Alors, je voulais vous parler rapidement de Time Watch, qui est un Kickstarter qui est terminé, mais à l'heure où je vous parle, qui est inconnu de moi, puisque je ne sais pas quand l'émission sera mise en ligne, mais nous sommes aujourd'hui le 22 février et le Kickstarter s'est terminé hier et l'auteur a dit qu'il laissait encore une semaine aux gens s'ils voulaient augmenter leur pledge ou pour les gens qui voulaient quand même faire un pledge même si le truc est fini. Donc,
d'accord.
Donc en gros, vous aurez peut-être quelques jours, voire quelques heures selon la date de mise en ligne de ce Kickstarter.
Alors, mais c'est et ça vaut le coup d'investir.
Alors donc c'est un jeu qui sera publié par Pelgrane Press, je pense. L'auteur est relativement inconnu et c'est un jeu qui se présente comme un jeu d'enquête et de voyage temporel. Donc inutile de dire que moi, quand j'ai entendu ça, ça a fait ding ding dans mes yeux.
Toi, t'as des yeux qui font ding ding.
Ouais, j'ai les yeux qui font ding ding. Alors le principe très 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 sympa. c'est que
t'es docteur Maboul en fait.
C'est ça. À partir du niveau minimum de pledge, donc $1, on t'envoie une version, un draft en fait des règles qui sont des règles pré-testées, playtestées pardon, écrites à 80%. Je crois que tu me disais, Michael.
En fait, toute personne qui a pledgé, quoi, qui a acheté chez Pelgrane du gumshoe, l'a reçu. Quoi. Moi, en tout cas, j'avais acheté du gumshoe et le mail que j'ai reçu de Pelgrane, il disait comme vous avez commandé du gumshoe, on vous envoie l'alpha de Time Watch.
Donc c'est
oh, une... c'est sympa.
Ouais, non, c'est vachement sympa. Et alors c'est une alpha, donc mais vraiment relativement avancée. Hein. J'ai feuilleté le truc, ça fait 260 pages. Clairement, tu peux jouer avec. Même si c'est pas tout à fait fini, en attendant la version finale.
D'accord.
Et alors pourquoi c'est pour moi un Kickstarter extrêmement intéressant? Parce que à partir de donc tu peux payer $10 pour avoir le PDF des règles, mais moi j'ai pris le niveau un peu au-dessus. Alors je suis resté au PDF parce que je voulais pas que les frais de port coûtent autant que le livre. Et pour $25 en fait, tu as non seulement les règles de base, mais en plus tous les stretch goals. Et je peux vous dire qu'au niveau stretch goals, ils se sont pas foutus de notre gueule puisque...
Il y a une machine à voyager dans le temps.
Ah bah, et alors ça, c'était si on atteignait 1 milliard, malheureusement, ça, on a atteint que $100 000. Donc il n'y aura pas de machine à voyager dans le temps. Mais il y aura... Alors attention, je vais essayer de vous faire un résumé rapide. Donc déjà, les règles seront en open content.
Okay.
Il y aura des règles de conversion avec les autres jeux Gumshoe inclus si vous voulez faire des crossovers. Ensuite, vous aurez plein de PNJ historiques. En fait, si vous voulez inclure des gens historiques dans votre jeu, il y aura un petit résumé de qui ils sont et des caracs.
Ok. Ah bah oui, forcément, dans son, bah ouais, un jeu comme ça, oui.
Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jouer des... En général, tu joues des humains donc, qui appartiennent à l'organisation Time Watch, qui les envoie en fait faire des enquêtes, genre, tiens, il y a eu une perturbation dans le continuum espace-temps, allez voir qu'est-ce qui se passe. Mais tu peux aussi jouer des non-humains.
La vidéo sur le site, il y a une espèce d'homme lézard combinaison bleue.
Tout à fait.
Assez...
Voilà. Là, tu peux jouer un mec d'un univers parallèle ou même un extraterrestre, enfin il n'y a pas de souci. Alors il y aura des synopsis écrits par Kenneth Hite, par plein de gens connus, hein, je ne vais pas vous faire la liste. Et surtout, il y aura en plus du setting de base, donc qui voilà les enquêtes, il y aura 11 autres types de campagnes possibles. Donc tu pourras jouer en mode pulp avec des gorilles super scientifiques qui se battent contre des nazis à dos de dinosaures, pas de problème.
Okay.
Tu peux jouer en mode code quantum où en fait au lieu de voyager dans le temps tu voyages de corps en corps.
Okay.
Tu pourras jouer en mode rébellion, c'est-à-dire au lieu de jouer les flics temporels, tu vas jouer les gens qui veulent foutre la merde dans le temps. Le Freedom Fighter temporel, on va dire. Tu peux jouer en mode touriste, c'est-à-dire tu as une machine temporelle qui est un poste de téléphone bleu et tu voyages
D'accord.
dans le temps et l'espace okay. avec un compagnon. Mais chut, pas de marque parce qu'ils n'ont pas la licence.
Voilà, c'est ça.
Tu peux jouer en mode conspiration, donc X-Files rencontre le voyage dans le temps, en gros. Donc c'est lui, il dit que c'est assez comparable à un des modes de Knights Black Agents.
Ouais.
Tu peux jouer en mode mythos, c'est-à-dire que en fait derrière le voyage dans le temps, il y a
en mode mytho, c'est-à-dire que tu crois que tu voyages dans le temps, mais en réalité t'es juste un petit peu dérangé.
Ah, c'est fantastique. Et donc voilà, en gros, derrière le voyage dans le temps, il y a la grande race, il y a les Yitiens, etc.
D'accord.
Tu peux jouer en mode monde parallèle. Donc au lieu de voyage dans le temps, ce sera des mondes parallèles. Donc ça, c'est genre à la Sliders, quoi. Tu peux jouer en mode time crime, c'est-à-dire tu es un voleur ou un conman, mais avec une machine temporelle, ce qui forcément facilite un peu les choses.
D'accord.
Tu peux jouer en mode, lui il appelle ça les wild times, c'est-à-dire la première époque du voyage dans le temps, l'époque où ça marchait pas encore très bien, il y avait que quelques personnes qui avaient des machines temporelles, voilà. Alors, et les deux derniers trucs, c'est tu peux jouer en mode It's a Wonderful Life, c'est-à-dire en gros... En fait, le voyage dans le temps, au lieu de jouer des agents temporels, tu joues des anges qui voyagent à travers le temps pour sauver l'humanité des griffes des démons.
Oh là
voilà,
là
c'est
là.
Un peu barré.
Les routes du paradis.
C'est ça, ouais. Et enfin, tu peux jouer en mode horreur temporelle. Donc des monstruosités à travers l'histoire essayent de pénétrer le voile entre les mondes et c'est à toi de les repousser. C'est dommage parce que à chaque fois que tu voyages dans le temps, ça déchire un petit peu plus le voile. En plus de tout ça, il y aura une campagne de 96 pages. Et un guide, en fait, un guide de ce qu'il appelle la timeline annotée. Donc, c'est en fait écrit du point de vue d'un voyageur temporel qui te présente un peu l'histoire du temps et de l'entreprise de Time Watch, etc.
Putain, pour $25 en PDF.
Tout ça pour $25, franchement, ça vaut carrément le coup. Le seul défaut que je trouverais à ce jeu, c'est que c'est le système Gumshoe. Qui, moi, je l'apprécie pas tant que ça sans plus l'avoir testé. Alors, il faut quand même savoir que j'ai mis ça dans les commentaires quand j'ai payé mon truc en disant ah, c'est génial, c'est le jeu sur voyage temporel que j'attendais. Bon, ok, c'est système Gumshoe, mais il y a tellement de trucs intéressants que je le prends quand même. Et le gars m'a envoyé un mail en me disant ah, mais si t'es pas fan du système Gumshoe, j'ai essayé de le modifier un peu parce que moi aussi il y a des trucs dont j'étais pas fan. J'espère que ça te plaira quand même. N'hésite pas à me faire un retour. Donc, je lui ai dit que j'en parlerai sans doute dans Radio Rollist quand il sortira pour de bon. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment vivement de vous mettre, donc soit de payer $25 pour vous payer toute la gamme, ou même juste $1
en PDF.
Soit $1 juste pour avoir les règles. Franchement, à ce prix-là, si tout ce qui est voyage dans le temps ça vous botte, je n'hésiterai pas.
Ok, d'accord.
Moi, je demanderai le PDF à David et puis je ferai une photocopie.
Non, t'as pas besoin de photocopier un PDF. Il suffit de l'imprimer.
Oui.
Je ferai des photos d'écran et je te les enverrai imprimées.
Quelle bande de voleurs.
Par SMS.
1 euro.
Alors, moi, je voudrais aussi parler d'un petit site intéressant qui s'appelle The Dungeon Dozen. Alors, quand on est enrhumé, c'est pas évident à prononcer. C'est un site qui propose à peu près chaque semaine des choix à tirer sur un des 12. Et en fait, c'est dans le cadre du médiéval fantastique, dans du donjon.
Tu peux nous donner un
exemple? Par exemple, il y a un jet qui est sur les choses qui sont aussi enlevées quand on utilise un sort de délivrance de la malédiction.
Il t'enlève la malédiction plus un autre truc.
Plus quelque chose d'autre. Donc le 1, c'est tous tes savoirs sur les affaires financières passées et présentes, incluant le contenu de ta bourse. Ah, ça t'enlève le sens de l'humour, par exemple. ça t'enlève les dents. Donc voilà,
chaque semaine, ils font une table comme ça.
Ils proposent une table, mais qui peut... qui peut concerner à peu près n'importe quel aspect. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un fan qui a fait un index complet.
Donc, oui, parce que c'est pas juste, c'est pas de l'éphémère, c'est-à-dire il y a quand même l'historique sur le blog et tu gardes toutes les anciennes semaines, tout ce qui a été fait.
Oui, oui,
là,
voilà, hein. Exactement. Oh, exactement.
J'espère qu'ils feront une compilation sous forme d'un livre et que le PDF tu pourras l'acheter et que je te le passerai, je l'imprimerai.
Par exemple, sur les donjons, tu as pour construire un donjon, sur des types de pièces à faire dedans, des types de rencontres par niveau.
Par niveau du donjon, tu veux dire, c'est pas associé à des règles quelconque système de jeu, quoi.
Voilà,
que
voilà,
soit.
Par niveau du donjon. La liste des humanoïdes qui sont un petit peu bizarres aujourd'hui.
D'accord.
Il y a aussi un truc sur des gens, sur les hiring, les gens que tu peux embaucher.
D'accord.
Et
les suivants. Là.
Voilà, sur les suivants que tu peux embaucher. Et ça te permet de trouver, par exemple, des défauts très désagréables que tu constateras au pire moment.
Ouais, donc grosso modo, faut aller voir sur ce site pour aller jeter un œil et voir ce qu'on peut en faire.
Ça permet de typer très très fort quelque chose. Il y a notamment des listes de trésors particulièrement rigolotes ou des objets. Par exemple, plutôt que d'avoir une boussole à la con, tu peux avoir une boule à neige avec dedans t'as un petit dragon à fourrure qui tient un stylet et une plaque de cire sur laquelle il fait le plan du donjon.
C'est pas mal.
Donc voilà, c'est plutôt rigolo et je mettrai l'adresse. Ah oui, alors deux trois autres trucs donc sur le podcast lui-même. Donc comme j'en parle depuis des mois et des mois, j'aimerais bien constituer cette équipe. Et en fait, je me dis tiens, si ça se trouve, il y a parmi les auditeurs des gens qui aimeraient faire des chroniques à Radio Rollistes.
Des gens qui se disent non mais franchement là la bulle de Cyril c'est du foutage de gueule, comme il critique que des jeux qu'il aime pas, moi je vais parler de jeux qu'il aime que j'aime bien, Mickaël à chaque fois il parle pendant trois quarts d'heure, on s'endort trois fois, moi je peux mieux faire, et ben venez nous le prouver.
Envoyez un enregistrement.
Vous pouvez laisser un commentaire sur la page de l'épisode de cette fois-ci, en sachant qu'il y a une adresse mail pour le site, mais elle ne marche pas parce que j'ai pas modifié les fichiers du DNS. Bref, et puis donc bref, voilà, vous pouvez laisser un commentaire si ça vous intéresse, et puis après on verra quoi. Alors on va faire du parisianisme primaire, mais c'est beaucoup plus pratique si vous êtes parisien, puisque ça vous permet d'enregistrer avec nous.
Voilà. Sinon, ça veut dire envoyer un enregistrement.
Sinon, on peut faire par Skype ou des choses comme ça, mais j'aimerais, dans la mesure du possible, éviter.
Surtout que si par Skype, vous pouvez pas goûter au punch, et ça c'est quand même, au punch, pardon. Et
au
ça, c'est
punch.
Non mais il a un peu de mal avec l'anglais.
Je crois que la maladie de David est en train de m'atteindre.
Je ne te le souhaite pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, laissez un message. Sinon, autre chose, c'est j'ai deux trois fois parlé des statistiques de fréquentation du site et tout. J'ai regardé celle de l'un de nos diffuseurs qui s'appelle Bad Geek. Mmh. Et en fait, ils ont un site sur lequel on voit le nombre d'accès et tout. Et en fait, les chiffres me paraissent vraiment démesurés, mais je vais quand même en donner une estimation. Donc c'est à peu près 20 000 par mois. Enfin, par épisode, en tout cas.
Ah, c'est beaucoup.
Donc, j'ai presque du mal à y croire.
Maman, si tu m'écoutes, c'est pour rire, hein, en fait. Je fais pas vraiment du jeu de rôle.
J'ai presque du mal à y croire. Donc, il y a ça, et plus les 200 abonnés par le feed classique directement sur le site. Et voilà, donc c'est une information.
Incroyable.
Vous en faites ce que vous voulez.
Voilà.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir enfin peut-être recevoir un salaire maintenant qu'on a 20 000. Si vous donnez tous 1 euro, ça nous aiderait beaucoup.
Non, surtout pas.
Ouais, c'est bonjour la galère pour la récupérer. C'est la merde, au secours. On aurait des obligations, tout ça.
Non, surtout pas. Je veux garder cette chose indépendante. Ouais. même de ses auditeurs.
Ouais, exactement, surtout de ses auditeurs, c'est ça.
Sauf ceux
non,
qui
non, pas surtout, mais,
non, ouais. Non, mais il faut avoir une certaine liberté. Et
voilà.
Absolument.
Eh bien, ma foi, j'ai terminé. Je vous dis à tous à la prochaine fois. Amusez-vous bien. Ciao.
Salut.
Ciao. Salut.